et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Et si on se concentrait sur la morale, préserver sa vie et celle des autres, l'une des définitions philosophiques de la morale est a priori instinctif chez l'homme avec un grand H. Pourtant, l'histoire, toujours avec un grand H, a démontré à quel point cette notion fondamentale pour la vie humaine a été bafouée, piétinée. Et si la morale dépendait du respect des uns envers les autres, le respect qui se perd partout, enseveli, enfoui dans l'individu, l'individualisme primaire. Et la morale dans tout ça alors? C'est par ailleurs l'un des sujets du livre de l'un de nos invités. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
On vous emmène en Guinée avec l'écrivain Thierno Monenembo qui raconte une période sombre de son pays dénué de morale. Une violence sans borne qui a traumatisé, parfois perverti les citoyens. La Suissesse Lisa Voisard vous parlera des arbres avec des anecdotes étonnantes. Son livre, destiné aux adolescents a priori, a une portée plus large pour tout public. Et puis nous serons avec Jean-François Mallet, rendu célèbre par la célèbre collection Simplissime. Nous parlerons avec lui des cuisines du monde. Vous allez avoir des idées en tête pour vos repas du week-end. Et les libraires sont avec nous comme chaque semaine. Ils interviendront tout au long de cette émission. C'est Mike Viennot qui représente le Canada cette semaine. Bonjour Mike.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Ça va très bien et vous?
Ça va, écoutez, ça roule comme on dit. Vous êtes libraire à Montréal dans la librairie Monet. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles, vous dans la librairie Le Public par Filigrane. Tout va bien pour vous?
Tout va bien.
Ça marche la librairie là? Parce qu'elle est neuve encore. Hein.
Ça marche, ça a très très bien
ça
marché
fonctionne.
Aux fêtes de fin d'année.
Oui.
Puis là, le théâtre a un peu de cas de Covid, donc ah. on joue pas, on ouvre pas quoi. Mais
il y a encore le Covid.
Bon.
C'est étonnant.
Pas
en Bruxelles.
Tout, pas
non,
du
pas
tout.
Du tout, hein, non.
Non.
En France, les il n'y a pas le Covid. Même. Il y a Thomas Auxerre qui est avec nous. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Tout est ouvert, tout va bien, hein. Personne n'est malade.
Ah oui, on est ouvert. Ah,
tout,
tout va bien.
Tout va bien. Vous êtes libraire dans la librairie Lamandier à Puteaux. Et comment ça va là-bas?
Ça va plutôt bien.
Et ça va plutôt bien. Ça fait rire Jean-François Mallet, c'est notre blague récurrente. Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Pas de Covid non plus en Suisse, vous êtes libraire dans la librairie Une Petite Prose. Vous allez nous raconter une anecdote de libraire en ce début d'émission, Dominique.
Oui, donc Emmanuel, vous m'avez fait parvenir à Noël, et je vous en remercie encore, un livre à offrir à la première personne qui franchirait le seuil de la librairie à sa réouverture.
C'est vrai, oui.
Si elle disait qu'elle avait écouté l'émission de Noël.
Oui, exact.
Alors voilà. Vous avez rendu quelqu'un heureux, qui m'avait même prévenu par mail qu'il serait le premier, et qu'il l'était. Il a particulièrement aimé votre petit mot joint au livre.
Ouais.
Donc, en fait, c'est quand vous voulez pour refaire l'opération, pour Pâques,
ouais,
pour l'Aïd,
oui.
Pour Shabbat, hein, toutes les
oui,
semaines.
Bah oui.
Enfin, toutes les fêtes auxquelles vous pensez.
La prochaine fois que je ferai ça, ce sera pour la Belgique, la France ou le Canada. Hein, un tour de rôle, quand même.
Ouais, bon.
Bon, il a acheté un livre chez vous, hein, c'était la condition quand même. Hein.
Ah oui, bien
d'accord,
sûr.
D'accord, très bien. Contrat rempli. Merci pour cette
beaucoup.
Anecdote, Dominique. La photographe humaniste franco-suisse, justement, Sabine Weiss, est morte le 28 décembre dernier. Personnalité généreuse et émouvante, elle était une référence pour le monde de la photo, au même titre que Willy Ronis, Cartier-Bresson ou Douaneau. Anonymes et artistes reconnus sont passés devant son objectif. Nous l'avions reçu dans la librairie francophone. Voici quelques extraits.
Sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi.
Vous pouvez réagir, hein.
Écoutez, je ne suis pas une grande passionnée, je ne suis pas une connaisseuse de musique du tout, mais j'ai eu l'occasion énormément de travailler pour des couvertures et des disques pour Pathé Marconi, EMI des choses comme ça, où c'était merveilleux parce que j'avais accès aux répétitions et je photographiais pendant les répétitions. Et comme ils savaient que j'étais très discrète, que je faisais pas de bruit, j'étais dans la musique et c'était formidable. Et en plus, après, quand il y a des choses comme ça, on va en régie pour écouter ce qu'on a fait encore. En fait, c'est très intéressant.
Alors Stan Getz, que l'on entend en ce moment, que vous avez photographié, il y a eu aussi Igor Stravinsky, Ella Fitzgerald, enfin il y en a énormément, vous en avez immortalisé beaucoup. Ils font partie de vos plus beaux souvenirs.
J'ai jamais cherché à photographier des gens, des vedettes, mais chaque fois que j'en ai eu l'occasion, je les ai fait. Mais enfin, je n'étais pas une coureuse après les noms.
Vous préférez les photographies sur le terrain, à travers le monde.
C'est-à-dire que j'étais tellement occupée que je ne pouvais pas faire tout ce que j'aurais voulu. Parce que je faisais de la photo de publicité, je faisais de la mode, je faisais des choses très différentes qui m'occupaient beaucoup.
Est-ce qu'être photographe humaniste, c'est aimer l'autre, Sabine Weiss ?
Certainement que j'aime l'autre. Et j'aime le contact avec les gens. Mais si je faisais le genre de photo qui est dans Reporters sans frontières, c'était ma récréation. Parce que comme je travaillais pour des magazines américaines qui croyaient que tout le monde avait un château, une collection, ça c'était mon divertissement, mon carnet de notes. Quand j'avais un moment, j'allais dans un terrain vague où n'importe où, je regardais. Je trouve que dans la photographie, en tout cas pour moi, c'est un des grands plaisirs d'arriver devant quelqu'un. Je ne parle pas des Rothschild et compagnie que je photographiais dans la journée, mais je parle du menu fretin que je rencontrais dans les rues. C'est de se faire admettre, de leur sourire, de leur parler, de les toucher quelquefois, parce qu'il y en a que personne n'ose aborder. Quand on voit un clochard, on joue qu'on l'a pas vu souvent. J'aime voir les gens et qu'ils me voient.
Sabine Weiss, décédée fin décembre à l'âge de 97 ans, a publié de nombreux ouvrages. On vous conseille son photopoche paru en juin 2021 chez Actes Sud. On reste en Suisse avec notre première invitée. Bonjour Lisa Voisard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes dans notre studio de la RTS à Lausanne pour un ouvrage étonnant sur les arbres qui s'adresse aux jeunes adolescents, mais aussi à toute la famille, tous les âges. Moi, je me suis pris au jeu, Lisa, en lisant ce livre, en préparant cet entretien, parce que Arborama, c'est son titre, nous fait découvrir le monde des arbres avec à la fois des détails botaniques, mais aussi avec des particularités étonnantes et des anecdotes. Par exemple, Ginkgo biloba serait, selon Darwin, un fossile vivant.
Oui, exactement. Vous avez dit adolescent, mais vraiment à la base des 8 ans. Mais oui, de plus en plus, je me rends compte qu'en fait, il y a un peu tout le monde qui peut s'y intéresser. Il y a
on est tous des ados, de toute façon.
Voilà. Restons des enfants, mais oui. Un petit peu. Non, mais oui, alors le ginkgo, justement, oui, il a cette particularité d'être très ancien. Un des végétaux les plus anciens, en fait, qu'on a trouvé avant les dinosaures. Voilà, donc c'est un arbre particulier que j'aime beaucoup.
Ouais, c'est vrai qu'il peut vivre 3000 ans. Il a connu donc les dinosaures et le Diplodocus en aurait mangé du ginkgo biloba.
Éventuellement.
On n'a pas le témoignage. Vous soulignez en introduction la résistance des arbres qui surmontent le temps jusqu'à plus de 4000 ans parfois, hein, quand même. Alors il existe 60 000 espèces d'arbres de toute taille avec chacun des propriétés singulières. Le noyer, par exemple, s'isole des autres plantes et arbres. Expliquez-nous, Lisa.
Il a un système racinaire un peu particulier et il prend toute la place. Il aime pas trop avoir des voisins. Oui. Donc c'est pour ça qu'on trouve facilement un noyer seul au milieu d'un parc ou près d'une colline ou quelque chose comme ça. Il n'y aura pas une forêt de noyers par exemple.
Ouais, c'est ça. Il dégage des substances qui tuent les autres, c'est ça ?
Je saurais pas exactement
les empêche
dire,
de pousser, en tout cas.
Mais on va dire qu'il prend toute la place et l'énergie en fait, et l'eau qu'il y a dans le sol, il va être très puissant, peut-être par rapport à d'autres arbres aussi.
Ouais. Le séquoia, vous parlez du séquoia qui est un des arbres les plus grands du monde. Il peut aussi être cultivé en toute petite taille. Alors ça, c'est l'anecdote hein, de ce chapitre-là. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on peut en faire du séquoia ?
Bien sûr, on peut le cultiver en bonsaï, par exemple.
En bonsaï, oui.
Ici, c'est pas très très courant, mais en Chine, par exemple, ou dans d'autres contrées asiatiques, c'est même quelque chose qui se transmet de génération en génération. Donc, on peut avoir le plus grand arbre du monde en tout petit dans notre salon.
C'est dingue. Ouais, dans le parc de Redwood, d'ailleurs, en Californie, il y a le plus grand séquoia du monde qui fait 115 mètres. Le hêtre couvre ses racines en hiver. Il se fait une couverture.
Oui, là, ces feuilles qui tombent presque toutes. Il y en a quelques-unes qui restent accrochées au rameau. D'ailleurs, c'est super joli, je trouve la couleur un peu cuivrée comme ça. Mais les feuilles qui tombent, elles continuent à protéger en fait les racines de l'arbre. Donc, c'est plutôt bénéfique. C'est pas triste, un arbre sans feuilles, il continue de vivre à quelque part.
Oui, c'est ça. Il jette ses feuilles finalement par terre, ça le couvre. Et c'est pour ça que faut pas enlever ces feuilles-là, parce qu'il s'est fait sa petite couverture d'hiver, le hêtre. Le chêne qui disperse volontairement ses glands pour assurer sa survie. Certains animaux s'en nourrissent, le porc élevé au gland fait un jambon d'exception par exemple, mais c'est pas seulement pour ça, hein. C'est qu'il assure sa survie clairement quoi, avec les glands disséminés partout.
Mmh. Les oiseaux en fait sont les premiers acteurs de cette dissémination, les geais en particulier. Ils vont faire toute une collection en fait de glands à l'automne, pour faire leur réserve pour l'hiver. Du coup, ils vont planter des glands un peu partout, ça dissémine les graines. Ils les retrouvent pas tous, donc ça fait des jeunes chênes en devenir.
Ah oui, d'accord. Donc c'est ça, oui, c'est les oiseaux en fait qui prennent les glands pour les enfouir.
Voilà, c'est
quoi, les
oiseaux ou des rongeurs, voilà, ils vont les enfouir
dans les réserves,
dans les feuilles mortes, dans la terre, dans différentes manières, et des fois à des kilomètres de l'arbre mère en fait. Donc ça, il peut y avoir des enfants de cet arbre là par exemple, il y a plusieurs kilomètres dans le village d'à côté.
Ah où, oui. Voilà. Mais alors qu'est-ce qui se passe, en fait c'est l'animal qui oublie où il a mis le gland et du coup il pousse, c'est ça?
Exact.
C'est
vraiment
incroyable.
Ça, il ne peut pas se rappeler de toutes ses cachettes.
Ça rappelle l'âge de glace, vous savez, avec le personnage qui a son gland.
Oui,
c'est ça, Scrat.
Exact.
Bon, racontez-nous l'histoire des morilles qui adorent pousser au pied des frênes.
Alors, je ne suis pas une amatrice de champignons, mais c'est vrai que j'aime bien l'idée de... Voilà, c'est un peu mystérieux de se dire, si on connaît le frêne, il y a peut-être des chances qu'on puisse le reconnaître dans la nature. Et si on regarde à ses racines, peut-être qu'il y aura des morilles, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est deux espèces qui vivent en symbiose.
Oui, parce que le frêne libère un sucre par ses racines dont raffolent les morilles.
C'est ça.
Bon.
Vous m'avez bien eu.
Le tilleul est le territoire des gendarmes aussi, ces immondes punaises rouges et noires. Hein. Alors, je sais pas
elles sont pas immondes.
Ah si, c'est horrible. Non, les punaises noires, hein. C'est pas possible, les gendarmes. Et le peuplier d'Italie aurait des racines magiques. C'est-à-dire...
Alors, il fait des drageons. C'est des rejets en fait de petites souches, on veut dire. Par exemple, un arbre, en général, il a du pollen, il va faire des fruits, les fruits vont tomber, se planter, etc. Ça va faire des nouveaux arbres. Mmh. Et puis, le peuplier fait partie des arbres, c'est pas le seul, mais qui drageonne, on dit. Il rejette des petites souches à la base des racines et ça fait des nouveaux arbres. Donc, c'est des clones, si on veut.
Ah, oui.
Quand c'est rejeté comme ça par les racines, si on prend l'ADN de l'arbre qui va pousser, il est identique à l'arbre mère.
D'accord. Bon, c'est étonnant. En tout cas, il y a des racines très puissantes qui peuvent casser du béton et des trottoirs, le peuplier d'Italie. On va laisser la parole à nos libraires, Lisa Voisard, avec la Belgique et le Canada qui ont lu votre livre. On commence par la Belgique, Déborah Damblon.
Eh bien, moi, je trouve que votre livre est une réussite, mais vraiment sur tous les plans. D'abord, il est beau. Il est beau, la palette de couleurs, la mise en page sont à la fois discrètes, harmonieuses. Et puis, j'ai particulièrement aimé l'illustration de mise en contexte de chaque arbre. Vraiment. Et puis, c'était un plaisir de le feuilleter parce qu'il est précis, parce qu'il ne s'arrête pas aux informations basiques, parce qu'il contextualise, il donne les clés au lecteur pour être actif dans ses observations et sa découverte, sans oublier de nous faire rêver, de nous faire voyager. Vraiment, c'est une réussite et je suis une ado.
Je suis une ado. C'est vrai, moi aussi, hein. je vous confie. Je vous le dis aujourd'hui, il fallait que la vérité éclate un jour. Je suis un adolescent aussi. Mike Vienno au Québec, êtes-vous d'accord?
Oui, c'est un très joli album documentaire pour les jeunes. Les images sont remarquables, elles sont douces, elles sont soyeuses. Par contre, pour certains lecteurs friands d'informations, oui, il y en a quand même. Je pense qu'il manque un peu de matière, selon moi. L'album aurait gagné à être un peu plus développé, à contenir un peu plus de sujets. C'est très beau, c'est agréable. Il reste par contre un peu figé dans une tranche d'âge un peu restreinte et puis les curieux pourront s'en lasser un peu rapidement.
Ouais, bon, alors à tranche d'âge pas du tout, là on n'est pas d'accord, mais c'est vrai que en tout cas c'est un livre fondé sur l'illustration, Lisa Voisard.
C'est vrai que
il fait 200 pages.
Je suis illustratrice à la
base. Et oui, c'est ça. Et oui.
Et puis je pense que le but c'est vraiment de s'adresser à des gens qui connaissent rien du tout aux arbres et déjà apprendre ce que c'est dioïque, monoïque, enfin des mots un peu scientifiques.
Ouais.
Il y a certains termes comme ça où ça peut faire beaucoup d'infos. Mon but c'est vraiment d'aller vraiment droit au but quoi et de montrer un bon échantillon déjà de la diversité.
Mm-hmm.
Et c'est vrai que l'illustration a une bonne place parce que c'est ce que j'aime faire aussi.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Alors il y a par exemple la pétiole. Vous expliquez ce qu'est la pétiole. Vous savez ce que c'est, Mike, au Québec, la pétiole?
Pas très très connu pour moi, là.
Très bien, Jean-François Mallet, bonjour.
Bonjour.
Vous me regardez avec inquiétude. La pétiole, vous savez ce que c'est ?
Québec, non, je vois pas très bien.
Alors c'est la petite tige, hein, c'est ça, Lisa, qui est à la base de la feuille.
Voilà, par exemple, sous le chêne, pédonculé, par exemple, il a une toute petite pétiole. Puis du coup, on dit qu'il est vraiment, que la feuille est très proche de la branche.
Voilà, donc on apprend des choses comme ça.
Donc le pétiole est court. Donc il y a quand même des termes botaniques pas trop compliqués, mais qui existent, qui sont là. Et puis, suivant la curiosité du lecteur ou de la lectrice, il pourra peut-être s'attarder que sur les illustrations ou quand même apprendre un petit jargon botanique. Voilà, ça donne différentes possibilités.
On va continuer à jouer ensemble, Jean-François. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous savez quel est l'arbre qui a l'un des bois les plus solides? Un des plus solides au monde, comme un roc?
Je pense à l'ébène comme ça, mais
non. Non.
Peut-être.
Peut-être.
Non, je ne sais pas.
Lisa?
Je crois que c'est le charme.
C'est ça.
Le charme.
C'est assez joli, le charme, d'ailleurs.
Oui.
Non, mais c'est vrai. Enfin, ça a du charme. Au-delà de ça, c'est joli. Au-delà de ça, c'est un très joli arbre. Vous rappelez cette célèbre différence entre le marronnier et le châtaignier, Lisa Voisard. On ne mange pas les marrons ni glacés, ni en sauce. Jean-François Mallet, cuisinier, nous le confirmera. Ils sont toxiques, les marrons.
Oui, en fait, ça, c'est bien qu'on ait aussi des personnes de France ou de Québec ou Belgique pour comparer ce lexique, en fait, du marron et de la châtaigne, parce que c'est pas partout pareil, j'ai remarqué. Typiquement, c'est pas pareil en Suisse allemand et en...
Ah bon?
Et en roman, en français-suisse. Ben, nous, on va dire marron pour la graine du marronnier, elle est toxique, on la mange pas.
Ouais.
On va dire châtaigne pour le châtaignier, ça, c'est les marrons chauds, si on veut, dans le jargon.
Ben, c'est ça, ouais.
Dans la cuisine, la graine qui est cuisinée, on va dire que c'est un marron chaud, mais en vrai, c'est une châtaigne.
Ouais.
En allemand, marronen, c'est les châtaignes, vous me suivez?
Ah oui, d'accord.
Et castagnon, qui ressemble beaucoup à châtaigne, c'est les marrons. Mais du coup, c'est
perdu,
le casse-tête complet.
Ouais,
mais du coup, je sais pas comment, si en France, on continue comme dire à châtaigne, mais il me semble que
j'en
oui.
Sais rien. Ah bah non, on dit des marrons glacés, ce sont des châtaignes.
Bah, voilà, pour la cuisine. Mais après, au niveau de la botanique, je pense quand même que...
Bah, j'espère bien, quand même, c'est les botanistes. Oui, c'est ça. Alors, Mike Viennot au Québec, vous pouvez peut-être trancher. Qu'est-ce qu'on dit au Québec pour les marrons? Qu'est-ce qu'on mange?
Nous, on mange plutôt des châtaignes. Les marrons, c'est pour nous, c'est typiquement français.
Ah bah oui. Voilà. Alors qu'en fait, pas du tout.
Très bien.
La dinde farcie au marron.
La dinde farcie au marron, qu'on a mangé il y a quelques semaines, quelques jours. Bon, voilà, on est perdu. Allez, un petit peu de curiosité, tiens.
Puis j'aime bien repérer le petit détail que personne ne verra jamais.
Dans notre séquence La Curiosité, Lisa Voisard, nous piochons dans le livre de l'un de nos invités une curiosité qui mérite de s'y attarder. Vous évoquez à un moment le figuier, qui ne peut pas faire de figues sans une certaine guêpe.
Oui.
Expliquez-nous.
En gros, il existe une petite guêpe qui s'appelle le blastophage.
Voilà.
Elle s'introduit par le petit trou qu'on trouve sous la figue et elle va chercher le pollen qui est à l'intérieur du fruit. Donc les fleurs, si on veut, sont à l'intérieur du fruit.
C'est
comparé, je ne sais pas moi, aux cerisiers ou aux pommiers. Mm-hmm. Le pollen ne peut pas s'envoler tout seul, donc c'est une petite guêpe qui va venir chercher ce pollen à l'intérieur du fruit. Et elle va aller de fruit en fruit et continuer le cycle de la pollinisation.
Voilà. Ce qui va permettre de féconder en quelque sorte la figue et d'avoir une figue. Et la plupart du temps, d'ailleurs, il faut savoir que la guêpe reste à l'intérieur parce qu'elle n'arrive pas à sortir. Et phénomène magique de la nature, la figue digère la guêpe.
Ça, c'est assez fou.
Ouais. Incroyable. Donc, vous mangez des guêpes quand vous mangez des figues. Voilà, bonne chance à tous.
Normalement, elle n'est plus là.
Oui, non, mais elle n'est plus là, elle est digérée. Merci beaucoup, Lisa Voisard, pour toutes ces infos sur les arbres. Votre ouvrage Arborama est paru aux éditions Helvétique. À bientôt, Lisa.
À bientôt, merci pour l'invitation.
À suivre, une escale en Guinée avec Tierno Monenembo. Nous allons parler de la morale avec lui, entre autres. Avant cela, voici le regretté Rachita avec l'un de ses tubes que vous connaissez tous dans la librairie francophone.
Centre ville, quand tu peux naouer la hennish, tu n'as plus la seule.
Rock the castle, rock the castle,
rock the castle, rock
منهم بالجيتار على حب البندير يترك من الحدود خرجوا من الحدود خرجوا
C'était Rachida avec Rock El Casbah, adapté du titre des Clash en 2007.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérade.
Et bonjour Tierno Monenembo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un auteur guinéen. Prix Renaudot en 2008 pour Le Roi de Kael. Grand prix de la francophonie de l'Académie française. En 2017, vous revenez avec un nouveau roman, Saharienne Indigo, qui revient sur les heures sombres de la Guinée sous le régime de Sékou Touré, premier président de la République après l'indépendance. Et selon Amnesty International, que vous citez d'ailleurs dans le roman, 50 000 personnes auraient été assassinées sous son régime. Pourtant, il était admiré en Afrique au début.
Bien sûr, c'est un héros. Moi aussi.
Ah oui. Gosse,
j'avais 11 ans, c'était mon dieu. Je l'ai adoré, ce monsieur. Ensuite, il a commencé à dériver sous l'effet du stalinisme, parce qu'on a très vite intégré le système soviétique, très vite les prisons politiques, très vite la fermeture des frontières, les milices, la répression en permanence. Ce qui a fait que 3 millions de Guinéens se sont exilés.
Eh oui.
3 millions, c'est une population d'à peine 9 millions. Mmh. Presque un tiers de la population.
Alors, vous évoquez plein de choses. Vous évoquez notamment le camp B.
Le camp B.
Le camp Boiro, surnommé l'Auschwitz des Guinéens.
Bien sûr, ouais.
On y pratiquait là-bas la diète noire.
Bien sûr.
Avec les opposants politiques. C'était quoi la diète noire?
La diète noire, c'est le fait qu'on vous enferme dans une cellule, avec une petite lucarne. Mmh. On vous laisse là, sans boisson, sans nourriture, jusqu'à ce que mort advienne. Tous les jours, on vous regardait par la lucarne pour savoir si vous bougiez encore. À partir du moment où vous bougez plus, on vous prenait, on vous jetait dans une fosse commune. Ouais, c'est ça, la diète noire.
C'est ça. Ouais. Alors, des femmes ont été tuées, parfois pour pouvoir récupérer leurs bébés, qui seront donnés ensuite à des hauts dignitaires, ou à de simples gradés qui n'ont pas d'enfants. C'est la réalité historique, ça.
Oui,
c'est ce qu'on retrouve dans votre livre, mais ça existe.
Ça existe. Et cette fille est née. Le personnage principal est né au Kambaro, au Kambi. Elle a été récupérée par l'assassin de son propre père,
oui,
qui l'a éduqué, et parce que c'était son père, un jour cet homme l'a violé, elle l'a tué.
Alors racontez pas tout, hein, faites attention.
Ouais, on raconte pas tout.
Parce que c'est vrai que c'est un livre, je le disais tout à l'heure, sur la morale.
Ouais, bien sûr,
la morale politique,
oui,
bafouée, écrasée, oui, par des hommes sans, oui, foi ni loi. La morale des citoyens aussi, avec votre personnage dont vous venez de parler, Atou, qui elle s'est opposée à la violence de manière radicale.
Oui.
Adolescente, elle a tué son père.
Elle a tué son père. Son père l'a violée et s'est enfuie. Et cette fuite l'amène dans une dérive pas possible, dans laquelle il finit par découvrir sa propre identité.
Voilà, ouais. Et vous montrez que quand on est confronté à la maltraitance, à la déshumanisation, on ne peut plus conserver sa morale.
Non.
Et elle le reconnaît, elle dit « J'ai tué mon père, qu'y a-t-il de plus grave ?» Sauf qu'elle l'assume quelque part.
Elle l'assume, elle est obligée de l'assumer. Elle est coupable. Quand on tue, on est coupable. Ouais. Le Caïn est là. Mais en même temps, c'est une fille qui tend vers la vie. Elle est vivante, elle aime vivre. Elle tend vers deux choses essentielles, à mon avis. La liberté et l'amour.
Ouais.
Elle cherche l'amour, elle cherche la liberté. Elle s'approche de l'amour, elle s'approche de la liberté. Elle n'arrive jamais à être heureuse. Chaque fois qu'elle touche à l'amour, évidemment, cet amour devient une espèce de retour de manivelle qui casse la jambe ou la tête ou les pieds. Son premier amour, c'est lui qui est à la fin.
Celui qu'elle rencontre dans une boîte de nuit.
Dans une boîte de nuit. Ensuite, elle tombe amoureuse de Philippe.
Oui, c'est ça.
Qui est un blanc, qui l'amène à
Paris. Qui va l'amener en France. Mais c'est vrai qu'elle est confrontée à la violence en permanence. Parce que ce jeune homme qu'elle rencontre dans une boîte de nuit, il y a un rapport de force là aussi, une violence potentielle. Il lui dit que si elle couche avec un autre, il la tuera.
Bien sûr.
Comme si on ne pouvait pas vivre tranquillement sans la menace.
Non, parce que je pense que c'est l'époque qui le veut. Vivre une époque violente, pas seulement en Guinée, hein, un peu partout dans le monde. J'ai l'impression que l'amour est empêché. Pas seulement en Guinée. Mmh. Tous ces personnages principaux qui évoluent dans ce livre vivent un amour empêché.
Empêché par quoi ?
Par le contexte. Contexte violent, de déshumanisation, un contexte qui, dans lequel la pensée s'est aménuisée. Il n'y a plus de grands intellectuels, il n'y a plus de grands philosophes, il n'y a plus de grandes religions, tous ces rabougris. J'ai l'impression que toutes les grandes idées humaines se sont
délitées.
Complètement. Délitées, complètement délitées. C'est incroyable.
Alors, du coup, on se réfugie dans ce que l'on peut. C'est-à-dire un peu de boisson,
un peu de cuisine,
on en parlera avec Jean-François Mallet tout à l'heure.
Bien sûr.
Et puis avec la musique aussi.
La musique.
Pour la bande originale de votre roman, la BO du roman, vous avez choisi Sori Kandia Kouyaté.
Bien sûr.
Grand artiste, avec Conakry, on écoute un extrait. Très joli titre de Sori Kandia Kouyaté, Conakry, la ville dans laquelle se déroule votre roman. Merci. Pourquoi vous avez choisi cet artiste ? Parce qu'il était entre deux feux lui aussi, il a connu Sékou Touré aussi.
Il a connu Sékou Touré, c'était son ami d'ailleurs,
oui,
c'est même Sékou Touré qu'il a découvert.
Et oui.
Il a travaillé pour Sékou Touré tout le temps, mais Sékou Touré l'a complètement humilié, anéanti. Il est resté en Guinée, c'est une grande vedette. C'est tombé le prix de l'Académie Charles Cros en 1970. Il n'a jamais pu jouer sur les scènes internationales qui étaient demandées dans le monde entier.
Ah oui, on l'a cantonné à son pays.
Complètement, il est mort dans la misère en Guinée. Et on ne l'a pas mis en prison, c'est que tu ne peux pas l'emprisonner, mais en fait, il l'a humilié.
Bon, on va parler de la morale ensemble, Thierno Monenembo. On va laisser la parole à nos libraires tout d'abord, avec la Suisse et le Québec qui ont lu ce roman. En Suisse, Dominique Bressot, avez-vous aimé ce livre ?
Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Moi, ce livre, j'ai eu l'impression, en le refermant, de les connaître comme des amis, ces femmes balancées dans la mare de la cruauté humaine. Vous faites vibrer, à l'aide d'une très belle écriture, le lecteur ou la lectrice devant tant de courage simple, de tant d'espoir que rien ni personne ne peut abattre. Il n'y a pas une page, pas une ligne, pas un mot en trop. C'est terrible, mais c'est magnifique.
Incroyable. Tiens, nos monnaies même beau, ça va?
Ah oui, merci la Suisse.
Merci la Suisse. Le Québec, Mike Vienno, êtes-vous d'accord ? Pas trop, je crois. Si ?
Ben, un peu moins. Ah, oui. Il s'agit d'une belle rencontre entre deux femmes avec une belle intensité. Il y a un respect, une révélation d'une à l'autre. Problème, c'est que je me suis pas senti impliqué dans cette rencontre. Ça m'a pris un temps quand même assez long pour me sentir rentré dans le livre, être à l'aise. C'est bien écrit, c'est profond, avec beaucoup de douceur. Mais pour moi, c'est un rendez-vous manqué. Et peut-être, sans doute, parce que j'étais mal investi.
Bien. Moi, c'est honnête, avis partagé, mais on ne peut pas plaire à tout le monde, comme on
bien
dit.
Bien sûr, c'est formidable.
Bon, c'est formidable. Bon, la morale, Thierno Monenembo, il en est question, sans tout raconter, vos personnages en sont dépourvus, malgré des promesses, malgré des envies, c'est comme s'il n'y avait pas de règles de conduite. Qu'est-ce qui fonde la morale, selon vous, Thierno ? Est-ce Dieu ou les lois de la société ?
Les deux en même temps, sauf que mon personnage à moi, Benik Bangoura, échappe aux deux. Benik Bangoura est né dans une prison. Il est éduqué par un père qui s'est révélé un criminel. Et il a été récupéré par trois femmes, deux femmes isolées, et n'a pas eu de civilisation. Et c'est même pas si elle est chrétienne, musulmane, ou elle n'est pas humaine, en tout cas. C'est une herbe sauvage.
Elle n'a pas d'identité, c'est ça.
Elle n'a pas d'identité. Dire, ouais. Elle n'a même pas de, elle n'a pas de civilisation, elle n'a pas de vie, ni traditionnelle africaine, ni moderne, elle n'a rien du tout. C'est une petite bête sauvage.
Oui, mais la morale individuelle, elle est censée être naturelle, non?
Oh, la morale individuelle, je ne pense pas qu'elle soit naturelle. La morale, c'est la société qui la crée. Ou alors la religion. L'homme en tant que tel n'est pas moral. L'homme est une physiologie, c'est un fonctionnement de choses, c'est des instincts, l'homme, dès sa naissance.
Oui, mais alors justement, est-ce que la morale ne fait pas partie de l'instinct? Conserver sa vie, conserver celle des autres, c'est instinctif mais, en principe. C'est une morale animale, alors, je dirais.
Si vous voulez, mais en même temps, c'est vrai que cette fille arrive à résister, elle résiste à tout. Et elle fonctionne d'elle-même. Et c'est la survie qui compte pour elle.
Et c'est ça.
Ouais. C'est pas du tout la morale, c'est la survie, l'instinct de survie.
Dans votre roman, il y a aussi une mystérieuse Madame Cor, rencontrée à Paris, qui elle aussi a un lien avec la Guinée. Elle aussi, elle a un problème avec sa morale, parce qu'elle a laissé son fils là-bas. Mais elle n'a jamais osé y retourner.
Elle n'a pas laissé son fils, on lui a arraché son fils.
On lui a arraché son fils.
Son mari a été pendu sous ses yeux, et son fils lui a été arraché.
Alors, parce que, à ce moment-là, quand le père était tué, on rejetait la mère.
La femme blanche était chassée du pays.
Chassée du pays, et on gardait l'enfant.
On gardait l'enfant qui devenait les enfants de la Révolution.
C'est
une histoire vraie. J'ai eu une professeure de sciences naturelles qui a subi la même chose. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette femme-là, parce que ces femmes-là, quand elles disparaissent, on ne les revoit plus. Ouais. Ou elles deviennent folles, elles se suicident, ou elles se taisent. Vous savez, les gens réprimés ne friment pas, ne parlent pas, ils se taisent. Oui. C'est pas seulement une souffrance, c'est une humiliation. C'est une vraie humiliation.
Et c'est un traumatisme aussi. On a du mal à faire ressurgir parce qu'on a peur que ça fasse encore plus mal.
Exactement. C'est cela qui arrive dans ce Kambé, ce Kambaro.
Bon, vous citez aussi Cheikh Hamidou Kane, qui écrivait « L'homme civilisé est l'homme disponible ».
Absolument.
Et vous ajoutez « Disponible, la voilà la source de nos malheurs. Vous ne vous méfiez pas assez. Le truc qui piège les poètes et les artistes. Faites attention dorénavant. Les gens bien attentionnés sont les pires de tous. C'est à force de le rendre meilleur qu'on l'a esquinté, le genre humain. Vous souffrez davantage parce que vous avez rêvé. »
Tous les gens qui ont rêvé ont souffert. Les gens de rêve sont des gens victimes, c'est des martyrs. Forcément.
Les rêveurs sont des martyrs.
Les prophètes,
ouais.
C'est les premières victimes, tout le monde le sait. Et les poètes, les grands musiciens, tout ce qui ont rêvé, tout ce qui veut la beauté absolue, tout ce qui cherche quelque chose de très beau, de très fort, sont rattrapés par la bestialité collective.
Oui, mais ils peuvent s'échapper par la rêverie. On peut vivre dans un monde un peu plus adouci.
Oh, bien sûr, d'autant que le rêve continue, lui, mais dans leurs livres, dans leur musique, dans leurs chansons, le rêve continue.
Bah oui.
Forcément.
Sauf qu'on se voile la face, c'est ça que vous voulez dire?
Je veux dire que la personne elle-même, elle est démolie, mais son œuvre.
pas toujours démolie, Thierno.
Qui est le produit du rêve est encore là. Nos écrivains sont encore là. Ils ont rêvé pour nous. Hein. Donc, si on continue à vivre, parce qu'on vit de ce rêve-là. Mais le rêve, c'est une entreprise dangereuse.
Vous avez souffert de vos rêves, vous?
Je pense que oui.
Ah oui?
Je pense que j'ai rêvé à l'Afrique, j'ai rêvé à une Afrique unie, belle, etc. Et j'ai vu ce que ça a donné. Je pense que beaucoup de gens aussi ici ont rêvé à beaucoup de choses. Les intellectuels français ont passé leur vie à rêver. Et non seulement, pas seulement pour la France, mais pour le monde entier. Mais on sait ce que ça a donné.
Oui. Vous êtes plein de désespoir, Thierno. Hein.
Oh, je ne suis pas vraiment désespéré. Je suis plutôt un homme de colère.
Ouais. Vous n'avez pas l'air en colère. Vous avez une douceur en vous et en même temps un peu de désespoir.
Oui,
ou de désillusion. Vous êtes un peu désabusé.
Oui, c'est certain. Mais vous savez, une fois, on a fait un débat au Théâtre de l'Odéon, ici, il y a longtemps de ça.
Ouais.
Il y avait là un grand poète français que j'adore, qui s'appelle Bernard Noël.
Oui.
Il a dit, entre le pessimisme et l'optimisme, je préfère le pessimisme parce que le pessimisme, lui, il mène à la colère. Et c'est ça, la colère, elle est saine, pas le haine, mais la colère. Il faut qu'on soit coléreux parce que le monde est révoltant tel qu'il est.
Bon, merci beaucoup Thierno Monenembo. Merci à vous. Saharienne Indigo est paru aux éditions du Seuil. La suite de cet entretien, ce sera dans la version télé de la librairie francophone fin janvier sur RTS2, RTBF La 3, ici RTV de Radio-Canada et sur les 9 réseaux de TV5 Monde. Vous serez avec moi, hein, on est d'accord? Vous venez?
Merci, bien sûr.
Bien sûr. Merci Thierno, à très bientôt donc.
La librairie francophone.
La chronique des libraires, première partie avec les coups de gueule et les coups de cœur. Un coup de cœur en France, Thomas Hausser.
Et oui, un coup de cœur pour un livre jeunesse. Alors, ça s'appelle Suzy Boud. C'est écrit et dessiné par Angélique Léon et Stéphane Henrich, aux éditions Kaléoscope. Alors, rien que la couverture, elle est géniale. On voit un petit chat qui est un tout grognon. En gros, c'est l'album jeunesse.
Faut aimer les
chats, quoi. Ah oui, faut... bah, alors là, vous allez voir. C'est l'album jeunesse le plus drôle et le plus coloré de ce début d'année. C'est l'histoire d'une petite chatte qui passe son temps à bouder. Elle boude le matin, elle boude le midi,
comme
et le soir aussi. Oh, plus encore. Hein. Mais personne ne la comprend jusqu'au jour où elle tombe sur un chat de gouttière, mais alors aussi ronchon et mal luné qu'elle. Alors si vous êtes en recherche de jolies histoires qui sont autant drôles pour les parents que pour les enfants quand on les lit avec eux,
ouais,
je vous recommande ce titre. C'est dès 3 ans, c'est génial.
Bien, Suzy Boud aux éditions Kaléidoscope. Merci Thomas. Un coup de gueule en Belgique, Déborah Damblon.
Oui, oui, Emmanuel, je ne sais pas vous, mais moi. Je suis souvent gênée quand des auteurs s'emparent d'un personnage célèbre ou d'un autre auteur qui a une aura auprès du public et qu'ils écrivent sur lui.
Mmh.
Alors parfois c'est très bien fait et l'auteur magnifie le personnage, il lui donne une vraie dimension supplémentaire et on fait un voyage formidable. Mais ce n'est pas donné à tout le monde et parfois j'ai l'impression que c'est juste de l'opportunisme, désolé, et qu'on profite d'une notoriété et là, au pire, on frise la malhonnêteté intellectuelle et au mieux, bah, le lecteur se retrouve devant une coquille vide.
Très bien, c'est bien tout ça, Déborah. Des exemples ?
Il y a plusieurs personnes, par exemple, qui ont écrit sur Marina Abramovic. Parfois, c'est réussi. Parfois, c'est moins réussi, je trouve.
D'accord.
Bon. Voilà.
J'attendais autre
chose. Après trier, peut-être qu'on n'a pas les mêmes goûts. Hein.
C'est ça. Bon, merci beaucoup, Déborah. À suivre Jean-François Mallet, l'incroyable succès en librairie des Simplissimes. Nous allons faire un grand voyage culinaire avec quelques astuces et idées pour vos repas du week-end. On écoute Il y en a dans la librairie francophone avec Si tu m'aimes demain. Mais vous pouvez m'aimer tout de suite ou enfin, quand vous voulez. On s'aime, quoi. Hein, ça va sinon ? Allons-y.
Si tu m'aimes demain, on sera des stars. 70-80 qui se cachent leurs gars, qui rêvent plus loin. Si tu m'aimes demain, on brodera des fleurs sur nos jeans troués. On dessinera aux fans des cœurs. Si tu m'aimes demain, on regardera Paris. La semaine en émeute, le week-end on fuira la ville. Si tu m'aimes demain, à la télévision ils passeront nos chansons, fausse poésie, on sera peut-être des cons. Se voir la vie à deux. Dommage, j'irai pas mieux. Devoir se dire adieu. Si tu m'aimes demain, je ferai un tas de photos dans les chambres d'hôtel. Toi, tu me peindras sur le dos. Si tu m'aimes demain, dans les soirées chics, les cheveux en pagaille, on se fera la malle, on donnera des disques. Si tu m'aimes demain, je t'achèterai une plage, le temps d'un été, loin des journaux qui crieront scandale. Si tu m'aimes demain, bisous, incognito, on sera peut-être des cons. Se voir la vie à deux. Dommage, j'avais pas mieux. Devoir se dire adieu. On tournait pas heureux. Se retrouver comme de vieux. Faut que si
c'était Il y en a avec Si tu m'aimes demain.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Jean-François Mallet est avec nous, avec les Simplissimes qui sont de vrais succès en librairie. Jean-François, vous avez publié récemment les recettes italiennes les plus faciles du monde, les recettes asiatiques les plus faciles du monde, les recettes exotiques les plus faciles du monde. Cela donne plein d'idées, pas toujours aussi évidentes que ça d'ailleurs. Quel est le public visé?
En fait, au départ, la collection Simplissime s'adressait à des gens qui savaient pas cuisiner, qu'on avait mis un peu de côté. La cuisine était à la mode, mais ouais. Moi, j'entendais tous les jours des gens qui me disaient « Oh, mais là, mais moi, je sais rien faire, j'ai pas de matériel, j'ai rien. » Donc, j'ai pensé à eux quand j'ai fait les premiers livres Simplissime. Et le succès est venu parce que tout le monde s'est emparé de cette méthode, en fait, parce que Simplissime, c'est une méthode hein, pour donner des recettes. Et même les gens qui savent bien cuisiner, en fait, achètent des livres Simplissime, parfois pour avoir des idées.
Pour avoir des idées, ouais, voilà. C'est ça. Ouais.
Alors, tous les titres dont vous avez cité, c'est en fait, j'écoute beaucoup mes lecteurs. Genre, non, vous voulez quoi? On va dire, ah, on rêverait d'avoir un Simplissime sur la cuisine exotique. Très bien, je vais le faire.
Alors, voilà. Vous le faites tout seul ou vous avez des idées avec des chefs?
Ah, pas du tout, comment? Je suis tout seul.
Ah, tout seul?
Oui, oui.
Vous faites vos recherches, etc.
Je fais une recherche. Alors, moi, je suis un grand voyageur. Hein.
Ouais, ouais.
Donc, le voyage m'a beaucoup aidé à réfléchir dans le sens de l'invention de la recette. Je suis aussi photographe et cuisinier, donc je fais mes propres images, je fais mes petits tests. Voilà. Donc,
alors, c'est vrai qu'on voyage.
J'invente les recettes moi-même, oui.
C'est vrai qu'on voyage. Et dans votre nouvelle ouvrage qui s'éloigne des Simplissimes, qui s'appelle « Voir le monde dans son assiette », vous racontez les spécialités du monde, vous dévoilez au passage quelques restaurants qui les font, d'ailleurs en France, sans prendre l'avion du coup, et vous dites en introduction « La cuisine dit tout d'un pays ».
Par rapport à la cuisine, on peut comprendre la religion du pays, les spécialités, on va dire, enfin, le climat du pays. Alors, j'allais dire ce qui est produit dans, enfin, l'agriculture, tout ce que l'on produit dans ce pays. Donc, on peut parler d'économie du pays.
Ouais, c'est vrai.
La richesse,
là.
La pauvreté du pays. Bon, alors, voilà. Après, l'architecture marche bien aussi, d'une certaine façon. Mais je crois que la cuisine, je dis souvent, comme reporter, la cuisine m'a ouvert toutes les portes. C'est-à-dire que quand on vient voir quelqu'un, même dans des pays où, avec des conflits, j'ai eu la malchance de me retrouver dans une prison en Russie ou d'être au Liban poursuivi par des services secrets syriens. À partir du moment où on parle de cuisine, tout s'arrête. Et quand on explique qu'on fait en fait des photos de cuisine ou qu'on demande des recettes aux gens, et ben même les gens qui vous ont arrêté ont toujours un petit truc à nous donner. Donc c'est assez intéressant. C'est ce qui m'est arrivé de ces 25 dernières années. Voilà.
Bon, il y a plein d'astuces dans ce livre pour retrouver les saveurs justement connu lors d'un voyage, mais on ne peut pas tout faire chez soi, Jean-François Mallet, car on n'a pas forcément les bons ingrédients à porter de main. C'est souvent ça la difficulté avec les recettes exotiques, comme vous disiez tout à l'heure.
Alors, c'est vrai, alors ça change.
Ouais, faut chercher. Hein.
Alors, la méthode Simplissime, c'était aussi avec des ingrédients que l'on trouve de façon assez simple et assez accessible à tous. J'ai essayé pour le livre, par exemple, sur la cuisine asiatique ou exotique, au début, vous verrez, il y a un tableau. On fait des remplacements. C'est un produit qu'on ne trouve pas.
Ça,
on a une solution. Ce ne sera pas exactement le même goût, mais bon.
C'est pas pareil. Oui, mais ça
ce
donne
n'est pas
le
pas
même
pareil,
goût.
C'est vrai.
Eh oui.
Mais
on fait pas un rogaille saucisse de la Réunion avec les saucisses de métropole comme on ferait le rogaille saucisse à la Réunion. Ça n'a rien à voir.
Je suis d'accord, mais on fait pas non plus, pas non plus.
Quoi?
Un bar au fenouil avec un loup au fenouil, pardon, avec un bar de Bretagne.
Ça, si c'est sûr.
Voilà.
Il vaut mieux largement le loup au fenouil de la Méditerranée que le bar de Bretagne.
Ou le bar au vin blanc. Le bar au beurre blanc.
On va se faire des amis. Allez, vous évoquez justement, puisque vous parlez de poisson, le ceviche du Pérou. C'est la mode des tartares de poisson et des ceviches en ce moment. C'est quoi la différence entre les deux, tiens?
Bon, un tartare de poisson, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est on prend du poisson, on le coupe en morceaux, il est cru, on met un petit assaisonnement, un petit jus de citron. Alors moi, je mets une petite sauce soja ou un filet d'huile d'olive.
Ouais.
Puis on peut rigoler avec ça. Bon, c'est assez facile.
Ouais.
Le ceviche est un vrai plat. Avant, il faut faire le lait de tigre. On fait une macération avec le jus du poisson.
Tigré,
voilà,
c'est ça.
Des tigrés, voilà. Et du coup, c'est cette macération du jus de poisson plus le jus de citron qui va donner du goût au poisson et qui va permettre à ce poisson de fermenter.
Ouais.
Donc on a du coup un tartare de poisson avec du caractère.
C'est ça. Le plat le plus incroyable que vous ayez mangé au Mexique, Jean-François Mallet?
Si vous les sauterelles.
Il en a tellement qu'il s'en souvient plus.
Ah, les sauterelles.
C'est un poulet au cacao.
Ah oui, mollé.
Qu'est-ce que c'est ça, le poulet au cacao? Ça donne pas envie, hein?
Alors, je peux vous dire que c'est vraiment délicieux parce que le cacao, à la base, bon, n'est pas du tout sucré, hein,
et
c'est
oui,
pas du chocolat.
Oui.
Et en fait, ce mélange d'amertume
d'oignons et de la peau du poulet, le gras de la peau du poulet, c'est un truc à tomber par terre. Je ne m'en remets pas. Et en fait, c'est très facile à faire. On trouve la recette dans Simplissime Exotique. Mm-hmm. J'adore ce plat et à chaque fois que je le fais, les gens sont déroutés et adorent.
Au Mali et plus largement dans la culture culinaire subsaharienne, il y a le poulet yassa. Vous connaissez Tierno Monenembo, même bien si vous êtes de Guinée, le poulet yassa.
C'est la même chose.
C'est la même chose. Et au Sénégal, vous avez découvert le tiep boudien. Il faut une journée entière pour le préparer, paraît-il.
Bah, c'est surtout que j'ai observé. Moi, je venais pour faire une photo d'un plat et je suis arrivé le matin et il était 9h et j'ai pu faire ma photo. Il devait être 18h à peu près. Oui. Voilà.
Il passe la journée entière.
Ah, mais c'était incroyable.
Pourquoi? Parce qu'on fait macérer la viande.
D'un coup, on fait les légumes, on fait le bouillon, on récupère le bouillon, on poche le poisson, on ressort le poisson qui lui-même mélangé avec, je crois, c'est un persil particulier qu'on pose dessus. Ensuite, on remet tout ça en même temps. Il y a la graine. Donc après, on fait gonfler la graine. Après, on remet, enfin.
Et le riz aussi, la brisure de riz.
C'est ça la graine, pardon. La brisure de riz qui doit gonfler avec le jus du poisson. Après, on repose les légumes parce qu'il faut les cuire à part. Ouais, sinon, poisson, voilà, ouais. Etc. Mmh. Et ensuite, on met tout dans un grand plat et tout le monde mange en même temps avec ses mains. Ouais. Mmh.
Mais Tierno, vous avez mangé ce plat?
Bien sûr.
J'adore
le Sénégal. Je connais bien le Sénégal.
C'est un plat incroyable.
Il y a la poutine canadienne dans votre livre. Vous avez l'air d'aimer ça, hein, en tout cas.
Alors moi, j'adore la poutine canadienne, surtout quand on va dans le quartier chinois Chinatown à Montréal. Merci. Ouais. Parfois, on y trouve un peu de kimchi dessus ou de la coriandre. Et ça, j'aime bien.
Allez, la Belgique et la France ont lu votre livre. On commence par la Belgique. Déborah Damblon, gourmande.
Oui. Et je dois vous dire que faire d'un guide qui recommande des adresses un ouvrage universel que chacun peut lire et apprécier, c'était quand même une fameuse gageure. Et vraiment, ben, vous l'avez réussi. Et c'est un joli menu qui nous fait voyager. Et j'ai passé un tout bon moment à vous lire. Alors, j'ai quand même une micro-restriction en petite belge qui se respecte. Je voudrais bien vous demander en quoi vous trouvez que des crevettes et des tomates ensemble, c'est improbable.
Parce que la fameuse tomate crevette grise de Belgique, de Bruxelles.
Tomate farcie.
Mais oui, c'est génial. Parce que
sur le papier, je ne départais pas gagnant avec le goût de tomate plus la crevette grise.
Non, mais c'est vrai.
C'est un breton qui vous parle. Ouais. Et je reconnais que c'est quand même un petit peu improbable. Mais bon.
Mais non. Et quoi de meilleur que les croquettes de crevette grise, vous connaissez?
Ah, ça, par contre, oui. Ah,
c'est génial.
Oui. Ça, c'est moins improbable.
Ouais. C'est pas facile à faire, ça. Non. Bon, la France, Thomas Hausser?
Ouais. Oui, alors moi, j'ai bien apprécié ce livre, hein, qui en plus sort un petit peu de la gamme de la collection Simplissime, qui, à mon sens, a parfois été un petit peu trop décliné. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas des étagères assez grandes dans les librairies hein, pour tout accueillir. Là, je trouve que la maquette est très sympa, c'est coloré, les photos sont très belles, alors vraiment très très belles, et surtout, elles donnent faim. Et moi, quand un livre de cuisine donne faim, c'est que c'est réussi.
Ben oui, c'est ça. On part au Liban, Jean-François Mallet, pour un taboulé libanais. Il est important de couper le persil au ciseau.
Au ciseau, oui. Bah, si vous le faites avec un couteau sur une planche, tout le jus qui va se dégager de la découpe va finir dans la planche et pas dans votre taboulé. Mais ça, j'ai toujours découpé toutes les herbes, les herbes que vous utilisez même pour d'autres recettes, faites-le avec une paire de ciseaux, calmement. Voilà.
Alors le pesto aussi, vous dites qu'il faut éviter le mixeur pour préserver le basilic.
Bah, c'est toujours pareil. Hein.
Je ne suis pas d'accord avec vous, moi. Hein. Ah, bah, ça marche, le pesto dans un mixeur.
Ah, mais je n'ai pas dit que ça ne marchait pas, j'ai dit que c'était moins bon.
Bah, c'est pas sûr.
Ah, bah, ça, c'est sûr.
Parce que vous le faites quoi avec le.
Eh ben,
le
pilon avec un mortier.
Un mortier.
On écrase la feuille, on la mixe pas.
C'est pas facile, ça.
Il faut du
ça
très
fait
bon
des gros
basilic.
Morceaux en plus. Ouais.
Oh non, ça y a la purée hein. Après, il y a une petite purée qui se crée. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le robot, c'est plus pratique. Hein. C'est sûr.
Bon, vous écoutez la librairie francophone. On est avec vous, Jean-François Mallet, c'est Simplissime et son nouveau livre, Voir le monde dans son assiette. Le Portugal maintenant, Jean-François Mallet, vous aimez une soupe de saison, hein, qui pourrait être de saison. Le calbo verde, c'est quoi Jean-François Mallet?
C'est un chou particulier qu'on trouve au Portugal, c'est une soupe au chou en fait, dans lesquelles on met parfois une petite tranche de chorizo.
Oui.
Mais alors, un chorizo portugais qui est... Bon, toujours fort, hein, pimenté, mais un peu plus gras et qui donne un peu de gras dans cette soupe. C'est un délice.
Alors juste à côté, il y a l'Espagne. Vous racontez que la paella ne contient pas d'aliments en provenance de la mer pour les puristes.
Alors ça,
pas
c'est...
de crevettes, pas de moules.
Alors déjà, c'est extrêmement rare que déjà sur une paella, on trouve plusieurs ingrédients. Soit on fait une paella au lapin, soit on fait une paella au poulet, soit on fait une paella... Voilà. Alors, pour les vrais puristes, à l'origine, c'est-à-dire que l'origine de la paella se faisait avec du lapin.
parce que c'est la paella est née fait des gens qui ramassaient le riz dans les exploitations de riz vers Valence et ils avaient des grands plats plats, donc c'est le nom de la paella et le nom du plat, et ils faisaient cuire au feu de bois. Ils avaient vu quelques pièges, hein, quelques lapins découpés en morceaux, du riz, un bouillon de ces lapins,
c'est tout
et voilà.
D'accord.
Et ensuite est venu, je peux pas parler de mode, mais un savoir-faire qui est fait en rajoutant des fruits de mer.
Une amélioration.
Et voilà, une amélioration.
Ou pas, ouais.
Mais la paella authentique, il n'y avait pas de poisson.
Bien. Vous racontez aussi comment on peut faire le curry. Il y a 1000 façons de le faire, le curry. Il faut savoir qu'on peut le faire chez soi sans aucun problème, très facilement, où qu'on soit d'ailleurs. On part en Asie avec le tartare coréen. Alors ça, c'est très bon et c'est très facile à faire.
Alors ça, une viande de bœuf haché, comme un tartare classique. Ouais. Et on met de l'huile de sésame, des graines de sésame, un petit peu de piment, c'est pas mal aussi. On mélange. Et
Il n'y a pas que ça. Il y a un peu du soja aussi.
Alors on peut mettre de la sauce soja après, mais on mélange déjà cette viande. Ensuite, au dernier moment, on rajoute un peu de sauce soja, pourquoi pas un peu de coriandre, et on laisse mariner, mais rien, 3-4 minutes, et on a... Enfin, moi, j'adore.
Et ça se fait aussi bien cru en aller-retour, hein, comme on peut faire...
Alors, après, on en a... après ça devient un steak haché.
Mais... Non, mais non. Bah
non,
ça...
je rigole. Non, vous avez raison. Parce
ça dépend.
Toujours,
si on va vite, si on va vite, non. Voir le monde dans son assiette est paru aux éditions Hachette, comme la collection Simplissime. On vous retrouvera aussi dans la version télé de la librairie francophone fin janvier avec une anecdote jamais racontée dans les médias. Merci Jean-François, à bientôt.
Merci à vous.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Allez, la chronique des libraires, deuxième partie avec les coups de gueule et les coups de cœur. Un coup de gueule au Canada, Mike Vienno.
Oui, Emmanuel, c'est janvier. Et qui dit janvier dit le retour des livres achetés en double et reçus en triple. Oui, je connais la situation. Oui, c'est beau. Ça fait 25 ans que je suis en librairie.
C'est Noël,
j'ai vu des livres lus, j'ai vu des livres feuilletés, mais des messieurs, j'y ai pas touché. C'est resté dans son emballage. Ou commencer à corner, commencer à la trancher sale. Non, mais je l'ai vraiment acheté comme ça. Certains clients confondent librairie et bibliothèque où ils nous prennent pour des idiots. Un livre lu est un livre lu. Arrêtez de jouer les offusqués. Et c'est pas nécessairement ma fille a entendu parler de cet auteur et elle n'aime pas, mais c'est plutôt mon fils l'a lu. Il n'a pas aimé et j'essaie de vous le ramener. C'est malhonnête et impoli.
Voilà. Hein, au moins, si vous allez dans la librairie de Mike à Montréal, vous savez à quoi vous attendre. Hein.
Voilà. Voilà.
Mais bon, c'est bien, vous dites les choses. Allez, on va en Suisse avec un coup de cœur dans le rayon des BD, Dominique Bressoux.
Oui, c'est pour Un visage familier de Michael Desforges. Alors, si vous avez envie de temps en temps de changer de planète, hein, on ne sait jamais, c'est le moment de lire cette BD. Parce que l'auteur nous emmène dans un monde futuriste où les rues, les villes et même les humains sont mis à jour continuellement. Et ils se réveillent ailleurs avec quelqu'un d'autre à leur côté. Alors, au pire, vous y verrez une représentation mais délirante de ce qui nous attend peut-être. Au mieux, vous aurez lu une BD incroyablement originale et vous retournerez avec plaisir dans votre monde actuel.
Bien, de quoi voyager à la manière, à la sauce Dominique Bressoux. Merci Dominique, Un visage familier, c'est aux éditions Atrabile. Avant de conclure, on écoute Le son de l'outre-mer avec un extrait du nouveau titre de M. Toro Chamou, originaire de Mayotte.
Les arts, oui les arts.
C'était un extrait de Leza, le nouveau titre du Mahorais M. Toro Chamou. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Mathias Alléon. À la rédaction, Jean-Philippe Verret et Christophe Magère de France Inter avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, Francis Huster pour parler de Molière, Daniel Picouli et Thomas Gonzig. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bon week-end et bonne semaine à tous.